Kasha throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast. Guillaume de Panthers FR au micro pour ce 40e numéro de votre émission consacrée aux Carolina Panthers. Au cours de l'émission de ce soir, on va bien évidemment revenir sur la défaite des Panthers face aux Cardinals ce week-end. C'est une émission qui va être un petit peu différente de celle qu'on a fait jusque-là depuis le début de la saison. Mais ce qui ne change pas, c'est que je suis toujours accompagné de Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu ?
Bonsoir Guillaume, bah écoute, après la petite victoire de la semaine dernière, on est de retour sur un débriefing de défaite. Donc comme tu disais, on a un petit peu modifié le format pour ce podcast-ci. Bon, après, voilà, comme prévu, je l'avais annoncé la semaine dernière. Malheureusement, j'ai un peu jinx le résultat du match, dans le sens où j'avais dit que c'était une équipe qui nous réussissait plutôt bien. Ben, on a vu le résultat pas franchement glorieux, quoi.
Ouais, c'est vraiment pas glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. On le disait, une émission qui va être un petit peu différente. On va passer relativement vite sur le contenu du match et l'analyse du match en lui-même, parce que très objectivement, il n'y a pas grand-chose de nouveau que par rapport à ce qu'on a dit depuis le début de la saison, voire même en cours de saison dernière. A fortiori, quand on voit que ce début de match donc contre Arizona, ça représentait, enfin c'était quasiment un copier-coller de ce qui s'est passé face aux Saints la semaine dernière, un match typique de ce qu'on peut appeler les Carolina Panthers. Je vais garder ce jeu de mots maintenant parce que je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser pendant encore très longtemps. Mais en tout cas, voilà, les Panthers sous Matt Rhule se sont c'est caractérisé d'une grosse défense qui répond présent et une attaque qui suit pas. Donc là, comme la semaine dernière, c'est la défense qui ouvre le score avec un pick six de Frankie Louvou, évidemment. 7-0. Le reste de la première mi-temps, très honnêtement, c'était très compliqué à regarder, aussi bien pour les fans des Panthers que pour les fans des Cardinals. On est à 10-3 à la pause pour Carolina. Et au retour du vestiaire, bah voilà, c'est du classique là aussi. Arizona qui passe un 23-0. Et de là, ben voilà, on sait que le match est plié. Il y a un touchdown de Christian McCaffrey, un joli touchdown de surcroît en fin de match. Mais voilà, ça ne changera rien au résultat final. Défaite donc 26-16. Est-ce que Thomas, tu vois quelque chose à redire sur ce match qu'on n'a pas déjà dit, quoi?
Bah non, franchement, c'est difficile, quoi. Enfin, pas agréable à regarder. Ça, je pense qu'on va tous être d'accord. Et même, enfin, ouais, nous, on fait un match absolument dégueulasse. Mais il faut voir aussi qu'en face, des deux côtés du ballon, c'était pas franchement super beau, quoi. Parce que même quand on regarde l'attaque d'Arizona, il gagne le match, mais c'était un peu une purge, quoi. On va pas se mentir. On n'était pas sur le match le plus excitant de la saison, mais alors. On a vraiment rien mis en valeur sur ce match, enfin rien. C'est le bilan pessimiste, mais c'est le bilan en fait sur lequel on revient un peu depuis l'an dernier, comme tu disais. Ouais, j'avoue que j'avais pas spécialement d'espoir après même la victoire de la semaine dernière, mais bon, on est retombé encore dans les mêmes travers et puis on était encore entre guillemets sur la partie pas la partie la plus compliquée du calendrier, quoi, on va dire.
Ouais, c'est quand on voit les 4 matchs qu'on a joués jusque-là, les 4 adversaires, sans vouloir leur manquer de respect, quand on compare avec ce qui arrive, ça augure pas de bonnes choses. C'est vrai que donc l'attaque d'Arizona, notamment en première mi-temps, c'était aussi très compliqué. C'était quand même mieux pour eux en deuxième. La preuve, c'est que notamment au niveau du temps de possession, 22 minutes pour Arizona contre 8 aux Panthers en deuxième mi-temps. 8 minutes sur 30, ça donne un peu le ton et ça laisse deviner un petit peu ce qui s'est passé offensivement. Les stats, on peut les lire rapidement, mais voilà, Baker Mayfield, il termine. Alors, il est à 22 sur 36, 197 yards, un touchdown, deux interceptions. Voilà, rien de très différent de ce qu'il a montré jusque-là. DJ Moore, un peu plus en vue. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais enfin, pour moi, ça restait trop peu.
C'est trop peu, ouais. On a eu quelques first downs qui ont été récupérés, enfin un peu d'affilée d'ailleurs. C'était un peu mieux, mais c'est pas non plus flamboyant quand on voit les stats, quoi. Enfin, on a toujours pas dépassé les 100 yards. C'est une connexion avec Baker Mayfield qui s'effectue vraiment pas terrible, on va dire, parce qu'on a cette passe où il vise un peu dans la profondeur, il vise DJ Moore, et bah Moore en fait la prend dans le dos, il peut que toucher le ballon qui finit dans les mains du défenseur adverse, voilà, interception, c'est frustrant.
Ouais, c'est vrai que c'est on s'attendait clairement à mieux, hein. Avec cette arrivée de Baker Mayfield, mais on sera amené à en parler un petit peu plus tout à l'heure. Pour le reste, Christian McCaffrey qui fait du Christian McCaffrey. Alors, il finit avec 108 yards et un touchdown. Pas des stats énormes, mais j'ai eu l'impression, tu vas me dire si tu es du même avis, que son impact sur le jeu était quand même un petit peu plus que ce que les stats laissent deviner.
Ouais, non, clairement. Voilà, on est sur des stats qui reviennent. On a eu un peu peur d'ailleurs cette semaine avec cette histoire comment dire, de petites blessures. Mais a priori, voilà, ça s'est passé, rien de trop grave. Mais ouais, un impact qui était plus important, ouais, que ce que les stats veulent dire. Mais c'est un peu une des satisfactions de cette équipe, enfin de cette escouade offensive, quoi.
Ouais, satisfaction relative quand même, parce que c'est vrai qu'on
Oui,
termine
oui,
quand
oui.
même qu'à 16 points avec un touchdown défensif et un touchdown presque en garbage time, j'ai envie de dire. Donc c'est effectivement tout relatif. Pour le reste, que retenir? La ligne offensive a été pas trop mal, j'ai trouvé, si on veut essayer d'avoir un peu de positif. Deux sacs concédés. Mais voilà, je trouve qu'on continue à être dans la lignée de ce qu'on a eu jusque-là. C'est pas encore élite, mais franchement, je pense qu'il y a des bien pires lignes offensives dans la ligue.
Ouais, non, clairement, par rapport à l'an dernier, on va noter, ouais, qu'il y a quand même du mieux sur cette ligne offensive, avec les ajouts de cet été. Mais ouais, non, enfin, faut il y a tellement de points négatifs qu'il faut vraiment se concentrer un peu sur les petites satisfactions qu'on peut avoir à ce niveau-là, quoi.
Bah, en parlant de satisfaction, je te propose qu'on regarde du côté de la défense, parce que ça a quand même été encore globalement la seule vraie satisfaction, même si, comme je le disais, avec le temps passé sur le terrain, bah, au fur et à mesure du match, ça a commencé à devenir de plus en plus difficile, et ça explique aussi pour ça, en partie pourquoi l'attaque d'Arizona a réussi à être un peu mieux en deuxième mi-temps. C'est un peu toujours les mêmes noms qu'on voit revenir, hein, Frankie Louvu. Un petit peu de mal en fin de match avec une pénalité notamment sur James Conner un petit peu limite. Voilà, d'autres joueurs qui ont brillé. Moi je vois Jessie Horn, Derrick Brown. C'est un peu les mêmes noms quoi.
Ouais, non, c'est ça, ouais, Frankie Louvu, toujours, ouais, toujours une bonne satisfaction, comme j'en parle assez régulièrement. Bon, il y a eu, ouais, ce petit accrochage avec Connor sur la fin de match où on sentait que c'était un peu tendu entre les deux, et bon, il a eu de la chance de pas se faire un peu, comment dire, sortir du jeu. Mais voilà, c'est un des bons points positifs. JC Horn aussi, j'en reparle un peu tout à l'heure, mais bonne satisfaction défensive. Puis ouais, comme tu dis, Derrick Brown, on a vraiment beaucoup plus d'impact dans le jeu de sa part au fil du temps, et ça a été vraiment une de ses valeurs positives dans ce match, quoi.
Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on était un peu déçus sur ces deux premières saisons, on va dire. J'aimais beaucoup à sa sortie d'Auburn. Et là, depuis le début de l'année, on sent qu'il prend vraiment de l'impact à l'intérieur de la ligne défensive. Donc moi, ça me fait plaisir. Pour le reste, c'est un peu toujours les mêmes points d'interrogation qui reviennent. Hein. CJ Anderson, on avait de grands espoirs sur lui en début de saison, hein, notamment Mathieu, qui nous disait qu'il en attendait beaucoup après son training camp. Bon, bah, je pense qu'il a réussi à jinxer le truc lui aussi, parce que il fait encore une passe interférence défensive à l'image de celle qu'il a fait contre Amari Cooper et les Browns en première semaine. La blessure de Jeremy Chin, quand même, gros point noir. Il se blesse au tout début du match et a priori, ça prend quand même le chemin qui ne sera pas là dimanche prochain. Alors, Miles Harfield et Xavier Woods ont plutôt bien géré en son absence, mais ça va rester une grosse perte quand même, quoi.
Oui, c'est ça. Mais après, comme on en parlait un peu en préparation d'émission, j'ai envie de dire, vu les performances de l'équipe actuellement, je veux dire, vaut mieux qu'il prenne son temps pour bien revenir, parce que bon, je pense que. Enfin, j'avoue que c'est triste de dire ça à partir du quatrième match de la saison, mais les espoirs sont vraiment pas nombreux pour cette saison, quoi.
Ouais, et le pire, c'est que quand tu regardes le classement de la division, les Bucks, ils sont qu'à 2-2, quoi. Donc tu vois, les Panthers sont à 1-3, on n'est pas si loin que ça, et pourtant, ça semble vraiment totalement hors de propos de penser à ce classement de division. Mais bon. Voilà, pour le reste, on peut regarder au niveau des équipes spéciales avec Eddie Pinheiro qui a continué sa saison parfaite. Quand même, l'action du match, ce qui aurait pu être une des actions du match, c'est ce fake punt réussi par Johnny Hecker. Malheureusement, ça a été annulé pour une pénalité. Je crois que c'est Damien Wilson, si je dis pas de bêtises. Qui s'est retrouvé pénalisé par les arbitres sur l'action. Il n'y a pas grand-chose à reprocher quand même aux équipes spéciales, même globalement depuis le début de la saison, je trouve.
Non, ouais, globalement, ouais, on retombe un peu sur les mêmes commentaires que sur les semaines précédentes, pardon. Heureusement qu'ils sont là, c'est ce que je disais. Enfin, c'est les field goals qui passent, c'est des punts qui vont assez loin. Sinon, je pense que les scores pourraient être beaucoup plus sévères, parce que là, fondamentalement, même si je disais que les Cardinals n'ont pas été incroyables offensivement, peut-être que s'ils démarrent un peu plus en avant sur le terrain, peut-être que ça marque un peu plus de points. Donc c'est des choses qui comptent et qui vont beaucoup compter encore sur le reste de la saison.
Bon, je pense qu'on peut dire globalement qu'on a fait le tour sur ce match. Hein. On va pas épiloguer. Je te propose quand même de conclure cette partie avec un top, éventuellement. Est-ce que t'as trouvé un joueur qui t'a particulièrement marqué ?
Ouais, j'en parlais un tout petit peu juste avant. C'est J.C. Horn pour moi. On connaît un peu mon passif pour mon amour pour les Gamecocks, mais j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir vu jouer l'an dernier, bien sûr, à cause de sa blessure au pied. Cette année, on le voit enfin sur le terrain. Puis il prend vraiment ses marques. Il a l'impact que j'attendais qu'il ait. Donc, vraiment, c'est mon top sur ce match.
Moi, mon top, j'en ai touché un mot à l'instant. Hein. Ça aurait pu être Derrick Brown. Mais j'ai choisi Eddie Pinheiro. Parce qu'il faut quand même, quelque part, mettre en valeur les équipes spéciales. Et puis rappeler qu'il a été signé à la dernière minute suite à la blessure de Zane Gonzalez juste avant le début de la saison. Et dans ces conditions, voilà, il est parfait. Il est à 14 sur 14 depuis le début de la saison. En plus, il vient de réussir son plus long coup de pied en carrière avec un field goal de 54 yards ce week-end. Donc clairement, je pense que c'était l'occasion de mettre en valeur notre nouveau kicker. Pas de flop pour nous, parce que on va garder ça pour la petite section qu'on va rajouter aujourd'hui, une petite partie discussion justement sur les deux gros points noirs qu'on a depuis le début de la saison. On marque une toute petite pause et on revient avec ça juste après. De retour donc pour parler, pour conclure cette émission sur les deux gros point qui pose souci, en l'occurrence, bah, le niveau de jeu affiché par Baker Mayfield depuis son arrivée, et les questions qui inlassablement se posent sur le coaching, Matt Rhule, Ben McAdoo. Il y a de toute évidence quelque chose qui colle pas. Entre les deux, est-ce qu'il y en a un avec lequel tu préfères commencer?
Ah bon, on peut partir sur Mayfield, puis comme ça on terminera par le meilleur.
Allez, on garde le meilleur pour la fin, entre guillemets. Donc Baker Mayfield, rapidement, après 4 matchs, alors pareil, hein, 4 matchs, c'est encore loin d'être la fin de la saison, mais comme on le disait, c'est la partie entre guillemets, facile du calendrier, en tout cas celle qui a été identifiée comme telle. Il est à 64 sur 117, soit un peu moins de 55% de passes complétées. 747 yards, donc ça fait un peu moins de 200 par match. 6,4 yards par tentative, 4 touchdowns plus 1 au sol, 3 interceptions et un quarterback rating de 75 pour 11 sacs concédés. Globalement, derrière tous ces chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très largement en dessous de ce qu'il a pu montrer aux Browns, même dans ses plus mauvaises saisons. Et c'est au niveau de ce que pouvait montrer Sam Darnold, hein. J'ai pas les stats pour comparer, mais globalement, c'est ce genre de performance, quoi.
Ouais, bah c'est ça. Puis, enfin, c'est frustrant parce que bah, j'ai l'impression que le mot de ce parent de cas, ça va être frustrant pour ma part. Mais bah, j'en attendais vraiment mieux en début de saison. J'avoue que je continue d'y croire. Je me mets peut-être des œillères sur les yeux, mais on sait pas. Enfin, on n'a pas trop d'autres choix avec Darnold derrière et Corral qui est blessé. Puis bah, c'est pas folichon, comme tu dis. Ouais, moins de 200 yards par match. C'est difficile d'avancer, comme on en parlait, il y a corrélation avec le peu de temps de possession qu'on a par match offensivement. Puis bon, là, on a trois interceptions. Honnêtement, ça pourrait être plus parce que quand on voit le nombre de passes déviées, c'est tendu, quoi. On a des petits pincements au cœur plusieurs fois pendant les matchs. Je sais pas trop le problème qui est là. Peut-être que, enfin, honnêtement, mon hypothèse c'est que psychologiquement, ouais, ça a dû le bouger l'affaire chez les Browns. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais va falloir qu'ils se remettent un peu dans le sens de la marche parce que pour l'instant c'est pas particulièrement folichon.
Ouais, tu parlais des passes déviées, là on est à 10 hein, officiellement d'après les stats NFL. Alors je veux bien croire que ce ne soit pas le plus grand des quarterbacks, ce qu'il disait l'autre jour en conférence de presse. Après, si on va chercher pas très très loin, Drew Brees chez les Saints, il n'était pas beaucoup plus grand, j'ai pas vérifié leur taille, mais c'est à peu près le même gabarit. J'ai pas dans le souvenir que Drew Brees avait tant de passes déviées que ça. Loin de moi l'idée de comparer Brees et Mayfield, bien sûr, mais. C'est pas qu'une question de physique et de taille sur du quarterback. Il y a globalement, au-delà des chiffres et des stats, il y a même dans le jeu, on sent, tu le mentionnais la semaine dernière, un gros manque de confiance, quoi. Il est toujours à essayer de s'échapper de sa poche. La ligne offensive, on le disait tout à l'heure, elle n'est pas exceptionnelle, mais globalement, elle est quand même meilleure. En tout cas, c'est l'impression que j'ai que ce qu'on a eu jusque-là.
Bah puis même, enfin même quand il essaye, des fois c'est pas précis, quoi. Enfin, c'est ça va être au-dessus, par exemple, ça va être au-dessus d'un DJ Moore, ça va être dans le dos d'un DJ Moore, et c'est on sait pas, on a l'impression qu'il essaye de se précipiter, peut-être parce qu'il se sent sous pression, mais ben il y a un moment où va falloir essayer de faire quelque chose parce que bah là c'est pas tenable, quoi. Ouais, dès qu'il a le ballon en main, bah, on a l'impression que bah, qu'il sort de la poche. Mais il faudrait qu'il essaye de rester un peu plus dans la poche. On a l'impression de voir un. C'est. Enfin, bon, attention, hein, je suis pas non plus dans l'optique de comparer Mayfield et Russell Wilson, mais les situations étaient. Enfin, on avait un Russell Wilson à l'époque chez les Seahawks qui sortait de sa poche très rapidement. Bon, en l'occurrence, il avait une ligne, c'était plutôt une passoire. Là, en l'occurrence, on a quand même une ligne qui est capable de faire des choses. Donc, bah, on attend peut-être un peu plus de temps, dans la poche, quoi, pour permettre de plus ajuster son receveur.
Ouais, mais puis Russell Wilson, c'était quand même un bien meilleur coureur, une plus grosse menace au sol
Voilà, oui.
que Mayfield, dont le jeu de course, c'est pas forcément une arme et ça fait pas vraiment partie de son ADN. Au-delà de ça, même ouais, au niveau des lecteurs, enfin, globalement, tous les défauts qu'on lui reproche, c'est exactement ce qu'on voyait avec Sam Darnold. Et ce qu'on disait, c'est qu'à l'arrivée de Mayfield, le seul cas de figure où on était perdant, enfin, le seul truc qu'on lui demandait, c'était d'être meilleur que le pire quarterback qu'il y a eu en NFL depuis 4 ans. Et là, il est en passe d'être au même niveau, si ce n'est pire. Alors, je dis pas, enfin, je pense pas que Sam Darnold ferait beaucoup mieux. Hein. Faut quand même pas. On en plaisantait la semaine dernière, mais on n'en est pas rendu là. Mais ouais, mais au niveau des lectures, au niveau des déplacements, il y a pas grand-chose qui va quoi jusque-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir corriger parce que. On n'en est qu'au quatrième match. Il en reste encore 13. Ça peut être très, très, très long quand même pour finir la saison, quoi. D'autant que, comme tu l'as dit, donc Darnold est toujours blessé pour le moment. Corral est sur la liste des blessés aussi. Et derrière, c'est PJ Walker. Donc il reste Jacobison sur la practice squad. C'est peut-être lui la solution. Pour avoir un peu de nouveauté ou de changement, j'en sais rien.
Peut-être
Mais en
avoir un
tout
peu de
cas,
rôle
ouais,
magique.
c'est. Ça prend le chemin d'une saison très très longue quand même, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais.
Ouais, bah disons que voilà, on est au quatrième match de saison et on est déjà en train d'ajuster le podcast pour éviter de faire de l'ardite par rapport au précédent parce que ben pas grand-chose a bougé, donc ouais, ça peut s'avérer long, on va dire, sur la saison. Ça peut s'avérer même très très long.
Alors, en parlant de choses qui n'ont pas bougé, il y a le head coach qui est toujours là, Matt Rhule. Troisième saison. Et enfin, j'arrive plus. Enfin, ça fait déjà un petit moment, mais je ne comprends pas. Moi, c'est le principal truc. Alors, il y a des choses où on sent un léger progrès, une légère amélioration, mais ces problèmes de préparation de l'équipe en amont des matchs, moi, je ne comprends pas. Que tu arrives, par exemple, devant le match des Browns, que tu prépares, tu sais en plus que ton nouveau quarterback, il vient de là-bas, donc le match va être attendu. Et là, il a rappelé en conférence de presse, juste avant le match des Saints, que avec Teddy Bridgewater, il avait commencé 0-2, il s'était retrouvé en 3-2. Il a l'occasion, avec trois matchs à domicile, d'essayer de faire ça. Il gagne le premier match face à un rival de division, et derrière, il nous ressort un match avec une équipe qui arrive de toute évidence pas prête, quoi.
Depuis le temps qu'il est là, enfin, j'avoue que je suis étonné entre guillemets de pas avoir plus de gronde que ça dans le vestiaire. Parce que la semaine dernière, quand on gagne et qu'on nous dit que bah, il a toujours le vestiaire avec lui, je pense qu'il faut se poser aussi des questions sur qu'est-ce qui se passe en interne, parce que je vais pas. Enfin, normalement, on devrait quand même avoir une culture de la victoire. En l'occurrence, ben voilà, actuellement, on l'a pas, quoi, parce que. Bah, il faut aussi un peu un vent de révolte, quoi. Je pense faut essayer de brusquer un peu les choses parce qu'il n'y a rien qui bouge ou pas grand-chose, comme tu disais. C'est aussi quelque chose qui m'épate un peu, on va dire.
Ah ben ça, je te confirme que la culture de la victoire, on en est très loin. Ces conférences de presse sont un peu toujours, c'est un peu toujours tourné autour des mêmes explications, des mêmes excuses qui reviennent. Hein. Ah, on n'est pas loin, ça se joue pas à grand-chose. S'il n'y avait pas eu tel fait de jeu, ben on aurait gagné. Enfin, c'est assez. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution pour corriger ça. Moi, je vois quasiment aucun progrès dans le jeu. Il en est maintenant à 5 quarterbacks différents, 3 coordinateurs offensifs, et les problèmes sont toujours là. On en avait parlé, d'ailleurs, je me rappelle qu'on n'était pas tout à fait d'accord au moment du licenciement de Joe Brady. Moi, j'avais dit que c'était une erreur et que Joe Brady payait le côté Matt Rhule et Sam Darnold, qui étaient aussi mauvais l'un que l'autre. Là, on voit bien que. Les quarterbacks changent, les coordinateurs offensifs changent, mais le résultat reste le même, quoi.
Ouais, bah justement, j'ai repensé cette semaine au licenciement de Brady. Je vais pas dire que je reviendrai tout de suite sur ce que j'avais dit, mais ça commence à en prendre le chemin, quoi. Parce que enfin là, ouais, c'est la tête pensante, quoi. On voit bien, comme tu dis, on a beau changer de coordinateur offensif, ça bouge pas spécialement. il y a de la question qui se pose, quoi, sur la répartition des rôles, sur les décisions de jeu, sur la préparation des matchs. C'est beaucoup, et pour l'instant, c'est étonnant, en fait, qu'en trois saisons, on ait, je sais pas, rien n'ait vraiment changé, qu'on en soit toujours au même point, ou même, en l'occurrence, on est encore pire qu'avant, quoi.
Je dis pas que c'était parfait avec Jovrady, hein, loin de là. On a eu l'occasion de critiquer aussi certaines prestations offensives de manière, j'allais dire, aussi objective que ce qu'on fait là. Mais là, en termes de play calling depuis le début de la saison, moi je trouve ça quand même très alarmant. Quand je vois toutes les passes qu'on fait vers les tight ends, il y en a encore 9 ce week-end, vers Ian Thomas et Tommy Tremble, qui ont quand même des profils plutôt de bloqueurs. Alors je veux bien croire que Tremble ait un potentiel dans le jeu de passe. Jusque-là, on ne l'a pas encore trop vu. Je crois qu'il y a encore 2 drops ce week-end, si je ne dis pas de bêtises. Les courses plein centre avec McCaffrey, où ça insiste et où on voit bien que ça ne marche pas. Je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas trop à comprendre ce que veut faire McAdoo. Alors, on a dit que c'était un coordinateur offensif qui aimait bien impliquer les tight ends dans le jeu. Mais alors à ce moment-là, du coup, se pose la question de la construction du roster. Parce que du coup, tu prends des tight ends avec des profils plutôt bloqueurs, alors que ton coordonnateur offensif veut plutôt des passeurs. Et à l'inverse, quand tu avais Joe Brady et que du coup, lui, il ne les utilisait pas trop, c'est là où tu lui proposais un Dan Arnold. Alors, il n'est pas resté longtemps, tu me diras. Mais pareil, y a à tous les échelons de la franchise, j'ai l'impression que c'est compliqué, quoi.
Ouais, clairement, c'est. Enfin, puis cet entêtement sur les tight ends, j'ai du mal, quoi. Ce qu'on a vu avec Ian Thomas, Ian Thomas déjà, enfin, le fait qu'il soit toujours dans le roster, des fois on se posait un peu la question. Là, honnêtement, il y a une insistance là-dessus, donc faudrait se poser des questions sur le play calling, parce que, à côté de ça, quand on voit qu'on a un DJ Moore à 50 yards. C'est difficile, quoi. Enfin, on a quand même des joueurs de qualité avec Anderson et Moore, même Cheno qui a montré des très bonnes choses la semaine dernière. C'est amer.
Ouais, c'est un peu le sentiment, hein, globalement. Je peux comprendre, hein, le fait de vouloir jouer sur les tight ends. C'est vrai que c'est une bonne issue de secours pour un quarterback, pour qui n'est pas en confiance dans sa poche ou qui cherche des solutions pour reprendre un peu justement la confiance et compléter des passes entre guillemets faciles. Mais là, c'est pas cohérent avec ce que tu as dans le roster, selon moi. Donc,
non, clairement pas.
Voilà, on va voir si Scott Fitterer fait des mouvements là dans les jours, semaines qui viennent, pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive à ce niveau-là. Je sais pas, en tout cas, il va falloir qu'il y ait des choses qui bougent. Pour conclure sur cette section, je vais les revenir rapidement avec quelques chiffres encore. Hein, on ne va pas noyer les gens de chiffres, mais vu qu'on en discutait un petit peu durant le match hier et puis tout à l'heure, un peu plus tôt dans la soirée, au niveau des stats, alors quelques stats que j'ai vues sur le niveau des Panthers offensivement. Donc actuellement, NFL, c'est la pire équipe en termes de temps de possession. Hein, puisqu'on est à 40% de temps de possession pour l'attaque. Quand je dis c'est la pire en NFL cette année, c'est aussi le plus bas total sur les 20 dernières années. C'est pour mettre le niveau. On est aussi 32e au nombre d'actions par drive, puisqu'on est à moins de 5 actions par drive pour l'attaque. Dans le même genre, les conversions en troisième tentative, alors je donnais la stat, alors on est à 12 sur 49 depuis le début de l'année, hein, c'est 24%. On est à 3 tentatives converties par match. Pour donner un ordre d'exemple, en comparaison, les Lions, quand ils ont fait 0-16, ils étaient à 3,7. Et les Niners, avec un quarterback rookie en la personne d'Alex Smith en 2005, ils étaient à 3,1. Donc Voilà, plein de chiffres, on les retweetera parce que ce sera peut-être un peu plus facile qu'à l'oral, mais globalement, je ne sais pas si les Panthers sont la pire attaque, il y a vraisemblablement des stats qui vont donner telle ou telle autre équipe à la place, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce n'est pas fameux, ce n'est pas glorieux, et si on transitionne gentiment vers la conclusion de cette émission, c'est pas en regardant le prochain adversaire que ça devrait s'améliorer, parce que les 49ers présentent quand même une grosse défense. Et ça annonce encore un nouveau match compliqué hein, sur le papier pour Baker Mayfield et ses copains.
Ouais, non, bah clairement. Puis c'est des Niners qui vont avoir à cœur de se relancer un peu après un début de saison en demi-teinte pour eux, quoi, après avoir perdu notamment j'ai oublié son nom, zut, leur quarterback.
Trey Lance,
merci. Voilà, après avoir perdu Trey Lance, ils sont de retour avec Jimmy Garoppolo. Il y a une grosse équipe défensive sur cette équipe. Ouais, ça va être encore pas très très esthétique, on va dire, de notre part, du moins offensivement parlant, quoi.
Ouais, ils sont à 1-2 pour l'instant. Ils jouent cette nuit parce qu'on enregistre, on est lundi soir. Ils jouent cette nuit contre les Rams, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de faire une preview sans savoir exactement l'état de forme de San Francisco quand ils vont venir. Ce sera dimanche à 22h, deuxième match de suite pour les Panthers dans leur stade, mais à 22h. Est-ce que tu as un avis là pour conclure comme ça? Est-ce que tu penses que ça peut être le dernier match de Matt Rhule, où il a encore un peu de crédit, ou comment tu le sens?
Bah, honnêtement, je sais pas trop. Comme je disais, il me semble que j'en avais déjà parlé, on n'a pas d'écho de Tepper, ou rien de bien fou. Donc, je sais pas trop, enfin, honnêtement, j'ai un peu envie que ça se termine, cette ère Matt Rhule, qu'on puisse essayer de passer à autre chose et que, à la limite, voilà, qu'on ait un autre coach intérimaire sur cette fin de saison, histoire d'essayer d'autres choses et de voir un autre fonctionnement. Ah, parce que là, en l'occurrence, ben, je vois pas trop où est-ce que ça peut nous mener d'intéressant, quoi.
Non, mais écoute, on va suivre ça. De toute façon, voilà, on va arriver en semaine 5 et on aura déjà eu 4 matchs à domicile. Donc ça veut dire qu'il va en rester 4 ou 5 pour finir l'année. Donc on aura quand même une grosse majorité de matchs à l'extérieur pour finir la saison, face à des adversaires plus costauds en plus. Donc voilà, à moins d'un gros revirement de situation et qu'il y ait quelque chose qui se débloque, la saison peut être très très longue. Mais on sera là, hein, comme on est depuis le début. Donc voilà, et la prochaine étape, donc c'est le rendez-vous de dimanche. Merci Thomas pour ce podcast, j'ai envie de dire thérapie, hein, qui nous a permis un petit peu d'évacuer un peu toute la frustration, pour reprendre le mot du soir, qu'on a pu accumuler jusque-là.
Mais écoute, merci à toi.
Et puis merci à vous de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à nous dire, hein, si vous aussi vous avez un coup de gueule à passer, que vous avez besoin d'évacuer tout votre ressenti sur ce début de saison. Et puis on vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour un nouveau débrief, en espérant avoir des choses un peu plus joyeuses à raconter. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Ciao.
Ciao.